RTL Info.
Le journal de Raphaël Girardin.
Bonsoir. Retour en classe pour le post-obligatoire neuchâtelois. Lycées et centres professionnels rouvriront leurs portes dès le 8 juin. Les directions insistent sur l'importance de recréer un lien avec les élèves. Des bus au quart d'heure entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds lors des travaux de rénovation de la ligne ferroviaire l'an prochain. C'est un véritable défi que devront relever les entreprises de transport public. Comment vont-elles y parvenir? Décryptage dans ce journal. Il a été le visage de la lutte contre le coronavirus en Suisse. Daniel Cohr a tiré sa révérence hier et pris une retraite bien méritée. Le soleil continue de briller demain, mais la bise sera toujours au rendez-vous. Les températures indiqueront au maximum de 22 en plaine et 17 à 1000 mètres. Le post-obligatoire neuchâtelois prépare sa rentrée dès le lundi 8 juin. Les élèves retrouveront les bancs des écoles par groupe. Lycées et centres professionnels devront appliquer les mesures sanitaires exigées par le plan fédéral de protection pour les établissements du post-obligatoire. David Sanchez.
Oui, et chaque établissement aura droit à un dispositif spécifique. L'effectif de chaque classe sera scindé en groupes et les cours pourront être dispensés dans des salles séparées et à des moments distincts. Ces mesures visent à garantir une distance minimale de 2 mètres en cas de contact et une surface de 4 mètres carrés par personne dans chaque salle. Le retour en classe est donc imminent et pour Olivier Schmid, directeur du Centre professionnel des métiers du bâtiment, il est indispensable de tout mettre en place pour assurer un accueil bienveillant.
Certains élèves avaient des accès à des moyens informatiques confortables pour suivre les cours en ligne. D'autres ont suivi les cours en ligne sur leur smartphone. Tout le monde n'a pas été dans les mêmes conditions, alors que dans le retour à l'école professionnelle, chaque élève va de nouveau avoir le contact avec l'enseignant. Et l'accueil bienveillant consiste à prendre en compte les réalités que l'élève a vécues pendant cette période et puis d'intégrer tout cela pour faire un bilan des compétences qui sont là et de donner un appui aux élèves qui en auraient besoin par des cours d'appui, par différentes mesures pour lui permettre de raccrocher en fait tous les wagons et de réussir sa formation professionnelle.
Il est désormais essentiel pour le Conseil d'État et les directions des écoles de recréer un lien avec les élèves, un lien humain, mais aussi un lien avec les matières après 3 mois de fermeture des établissements. Laurence Knupfler-Chevalet, chef du service des formations post-obligatoires et de l'orientation.
Finalement, on savait que le lien était important dès le début. On a vraiment essayé de le maintenir par l'enseignement à distance. Les enseignants ont fait multiplier les stratagèmes pour maintenir ce lien. Il y a d'autres acteurs qui sont aussi venus en place, comme les conseillers aux apprentis, les médiateurs. Mais finalement, on voit que le lien en direct n'est pas remplaçable. C'est aussi un constat assez intéressant, alors qu'on va mettre tantôt l'éducation numérique en place, que cette éducation numérique, elle devra s'inscrire dans le cadre de l'enseignement présentiel.
Cette période si particulière aura été l'occasion d'en apprendre plus sur les méthodes d'enseignement à distance, mais aussi finalement sur l'importance du rôle de l'école dans la vie des jeunes. Yvan Deschenaux, directeur du lycée Jean Piaget.
Même si on a parfois tendance à la dénigrer, même si on a parfois tendance à penser que la manière dont on enseigne est obsolète, on se rend compte que le fait qu'on soit réunis ensemble sous la conduite d'un adulte avec une interaction directe est irremplaçable. Et en tout cas, virtuellement, on n'a encore pas réussi à se substituer à ces avantages-là. Et encore une fois, on a toutes sortes de retours, mais on a plutôt de retours aussi bien d'enseignants que d'élèves qui se réjouissent de se retrouver, même dans un cadre scolaire pour les élèves, ce qui aurait tendance à confirmer mes propos.
Ajoutons encore que les cérémonies de diplôme sont annulées cette année. Les titres seront transmis aux lauréats par voie postale.
Merci David. Un vent de renouveau souffle sur l'aéroport de La Chaux-de-Fonds. Un nouveau directeur a pris la tête des éplatures, Philippe Clapasson. Il avait auparavant exercé à l'aéroport de Genève et à l'Office fédéral de l'aviation civile. Et ça bouge aussi sur le terrain. Certains locaux de l'aéroport sont en cours de rénovation grâce à des investissements supérieurs au million, précise un communiqué adressé jeudi. L'inauguration est prévue cet automne. Un véritable défi attend les compagnies de transport public dans le canton de Neuchâtel. Dès la fin août et jusqu'en 2022, des chantiers importants seront menés pour assainir la ligne ferroviaire historique entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, notamment dans les tunnels construits il y a plus de 160 ans. Entre mars et octobre 2021, le trafic ferroviaire sera même complètement remplacé par un service de bus entre les montagnes et le littoral. Les explications d'Adrien Juvet.
Ces chantiers représentent un véritable défi puisque plus de 6000 personnes montent tous les jours dans un train entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Les entreprises de transport public sont toutefois formelles. Il y aura des places assises dans les bus pour tout le monde. Reste que pour diminuer la durée des chantiers, certains travaux seront menés 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, et pour garantir la cadence des bus au quart d'heure aux heures de pointe, aucun chantier routier ne sera ouvert sur le trajet emprunté par les cars de substitution. Les explications d'Alain Barbet, directeur régional des CFF pour la Suisse romande.
On a travaillé en étroite collaboration avec l'OFRU, avec le canton, mais aussi avec les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds principalement, mais pas que, pour que le trajet des bus puisse se rapprocher le plus possible au niveau temps de parcours du trajet en train. Et pour ce faire, il a fallu faire bien sûr des aménagements au niveau des carrefours, au niveau des feux de signalisation. Et lorsque le bus arrive, eh bien, le bus est prioritaire. Il va passer au vert, il va avoir des couloirs prioritaires de manière à pouvoir le plus rapidement possible rejoindre sa destination.
Par ailleurs, et toujours afin de garantir la cadence des bus, les traditionnels entretiens estivaux du tunnel de la H20 sous la vue des Alpes ne seront pas réalisés en 2021. Le conseiller d'État en charge du développement territorial, Laurent Favre.
Nous avons créé une task force entre le canton, la Confédération, l'Office fédéral des routes en particulier pour la H20, les CFF naturellement, les communes concernées, notamment les trois villes et le Val-de-Ruz, pour véritablement le périmètre soit connu dans le détail en 2021 pour éviter toute perturbation quant à la desserte bus qui doit être de qualité pour amener les pendulaires de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel notamment dans les meilleures conditions. Hors des heures de pointe, ce sera, je pense, sans trop de soucis. Effectivement, le défi, c'est les heures de pointe avec la fréquentation que nous avons aujourd'hui de la H20.
Enfin, un geste commercial sera proposé aux pendulaires. On retrouve le directeur régional des CFF, Alain Barbet.
C'est vrai qu'il y a des inconvénients quand même. Et c'est une façon de montrer notre compréhension et d'offrir un dédommagement qui correspond à un mois d'abonnement en 5 zones, avec une différenciation première, deuxième classe. Mais le but principal, c'est un, d'offrir la meilleure offre possible de substitution, mais également de faire un geste parce qu'on veut que les clients restent avec nous. On veut non seulement leur montrer que les transports publics, d'une manière globale, pas que le train, sont tout à fait concurrentiels, même en cas de travaux. Et puis d'un autre côté, on offre une compensation pour ceux qui sont le plus largement impactés, à savoir les pendulaires.
Durant cette période, d'autres travaux seront réalisés, notamment certaines mises en conformité avec la loi sur l'égalité pour les personnes en situation de handicap, ou encore le remplacement du pont CFF de Malakoff à La Chaux-de-Fonds.
Et pour tout savoir de ces travaux, rendez-vous sur rtn.ch. Déficit moins élevé qu'attendu à Val de Travers. La commune a présenté ses comptes 2019 ce matin. Ils affichent une perte de 2 millions de francs. C'est mieux que les 3,5 millions budgétés. Les revenus ont été meilleurs que prévu. L'amélioration est à chercher du côté de la somme versée par la Confédération pour la péréquation, des dividendes de la société électrique du Val de Travers ou encore de la réévaluation des biens immobiliers. Vivre normalement au contact de leurs proches, les personnes âgées attendent ce moment depuis de longues semaines. Eh bien, c'est probablement le bout du tunnel, le Conseil fédéral l'a annoncé hier. Les seniors peuvent dorénavant retrouver une vie sociale et garder leurs petits-enfants. La nouvelle est bonne aussi pour la fondation Pro Senectute qui a particulièrement veillé sur les aînés. L'isolement a été durement vécu par certains, mais d'autres souffrances sont apparues pendant le confinement, d'après le directeur de la section de l'Arc Jurassien, François Dubois.
Je connais des personnes de cet âge qui ont effectivement en ont souffert, ce que je comprends très bien. Plus globalement, c'était quand même ce sentiment d'être un peu mis à part, d'être un petit peu stigmatisé. Surtout, je dirais, après plusieurs semaines, au moment où certaines réactions un peu nauséabondes, si vous me permettez, sur les réseaux sociaux, laissaient entendre que finalement, c'était à cause des vieux que tout ça se passait et que l'économie s'écroulait. Ils devenaient un peu les boucs émissaires. Et puis là, c'était un peu pénible, j'imagine, ou même franchement pénible pour eux, de se sentir dans cet amalgame. On sait bien que 65 ans et plus, aujourd'hui, dans un pays où on vieillit bien et longtemps, ça représente quasiment 2 générations. Donc, c'était difficile de mettre tout le monde dans le même paquet. Donc, je pense que c'est ce sentiment-là. Il y a des gens qui m'ont dit, on a l'impression qu'on a pris 20 ans en 2 mois à cause de cette image qui était projetée sur le fait d'être vieux.
Et ProSenectute poursuivra pour l'instant ses activités en mode coronavirus. Pas de cours ni de formation en direct pour le moment. Les consultations sociales, elles, se poursuivent. Elles n'ont jamais vraiment cessé pendant la crise. Les Geneva Watch Days se tiendront bien au mois d'août. C'est l'initiative d'une dizaine de marques horlogères, dont Bulgari, Breitling ou encore Ulysse Nardin. Se tiendra du 26 au 29 août prochain. Il s'agira de l'unique salon horloger de l'année en Suisse après l'annulation de Baselworld et du Watches and Wonders en raison de la pandémie du coronavirus. Daniel Cohr a tiré sa révérence. Le délégué de la Confédération à la lutte contre la pandémie est parti à la retraite. Il y avait droit depuis un peu plus d'un mois, mais avait prolongé l'aventure le temps de la crise. Il a incarné durant trois mois la force tranquille de la Confédération pour expliquer l'avancée de l'épidémie et faire comprendre les restrictions imposées. Avec sa dégaine à la John Malkovich, avec son débit oral lent, en allemand comme en français, avec sa formule mille fois répétée, c'est une bonne question, il s'est fait un nom. Daniel Cohr est surtout un médecin épidémiologiste qui a scanné ou jour le jour, l'avancée de l'épidémie. Quand a-t-il senti que le pic était franchi? Il l'a confié à Serge Jubin.
Ça, c'est une bonne question. Assez vite après qu'on a franchi le pic, et assez tôt, je l'ai dit, j'ai reçu aussi beaucoup de questions qui ne croyaient pas vraiment. Et finalement, je suis heureux que c'était le cas.
Est-ce qu'on peut interpréter votre départ à la retraite maintenant comme la fin de la pandémie et l'assurance qu'on n'aura pas de deuxième vague?
Non, je pense que ça serait faux. C'est la fin d'une première vague. Ce n'est pas du tout la fin du virus. Il est toujours là. Le problème est toujours encore là. Il faut continuer avec la précaution qu'on a maintenant. Alors, ce n'est pas du tout la fin parce que je prends ma retraite.
Hier, en fin de conférence de presse du Conseil fédéral, le ministre de la Santé, Alain Berset, a rendu l'hommage qui convenait à Daniel Cohr.
Monsieur Cohr a participé à toutes les conférences de presse du Conseil fédéral, plus à 21 points de presse techniques, il faut imaginer. Et alors, ça m'a vraiment sidéré à chaque fois, avec une autre cravate. J'aimerais dans tous les cas, Monsieur Cohr, vous remercier pour votre engagement dans la lutte contre le coronavirus, vos connaissances scientifiques, votre capacité à vulgariser, votre modestie aussi devant ce virus dont on ne savait rien il y a peu, votre calme et aussi, je me permets de le dire, votre très subtil humour. So, danke, Herr Cohr, dans la scooter.
Daniel Cohr parti à la retraite. Il s'agit maintenant de faire connaissance avec son successeur, Stéphane Kuster, sur le pont dès demain. La Suisse a enregistré 20 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Le pays compte désormais 30 796 cas confirmés en laboratoire. Le canton de Neuchâtel compte un cas de plus selon les données du jour. L'application Suisse Covid est testée dès aujourd'hui. Son objectif est de retracer les chaînes de transmission du coronavirus. Les hackers et les personnes intéressées peuvent dès à présent mettre le système à l'épreuve. Le Centre national pour la cybersécurité réceptionnera les résultats des tests pour ensuite procéder aux adaptations nécessaires. Retour à la normale dans les transports publics suisses dès juin. Les lignes de trafic purement touristique fermées pour l'instant pourront notamment reprendre entre le 6 et le 8 juin. Les chemins de fer de montagne et les bateaux pourront eux reprendre leur activité après un arrêt de plusieurs mois. La Corée du Sud réactive des mesures après de nouveaux cas de coronavirus. Les autorités craignent ainsi une nouvelle vague épidémique dans le pays. La Corée du Sud a enregistré aujourd'hui sa plus forte hausse de nouvelles contaminations en près de deux mois. Une flambée de cas a été constatée dans un entrepôt d'une société de commerce en ligne près de Séoul. Et opération anti-mafia après des détournements de fonds publics en Italie. La police italienne a démantelé un vaste réseau criminel mafieux dans le sud de la péninsule. Le réseau est accusé du détournement de 110 millions d'euros de fonds publics et européens. 73 suspects ont été interpellés, dont 11 fonctionnaires. Ils sont accusés de fraude, corruption et détournement de fonds publics.
Pour la fin de la journée, le ciel va rester assez clair avec du soleil au rendez-vous, mais aussi quelques cumulus, quelques passages nuageux, mais normalement le temps va rester sec. Demain, c'est à nouveau une belle journée baignée de soleil qui nous attend. Un ciel le plus souvent sans nuages, mais il y aura quand même le développement de petits cumulus l'après-midi. La bise sera toujours au rendez-vous et par moments même forte sur la région, ce qui pourra être désagréable. Par contre, les températures s'annoncent tout de même douces. Météo News prévoit pour le meilleur de la journée de demain 17 degrés à La Chaux-de-Fonds et au Locle, 19 degrés à Dombresson et Fleurier, 21 degrés à Neuchâtel, Payerne et La Neuville et 22 degrés à Yverdon-les-Bains. Pour le week-end, les conditions anticycloniques vont continuer avec un temps bien ensoleillé en toute région et une fois encore quelques petits cumulus, mais normalement le temps va rester sec.